Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Mater Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et les matériaux qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique pour cet institut. Aujourd'hui, on va parler de sels et de matériaux et pour traiter ce sujet, je suis en compagnie de Loïc Gay. Bonjour.
Bonjour Elisa.
Tu es doctorant en deuxième année à l'UMET, l'unité matériaux et transformation. Ton sujet de thèse s'intitule « Mécanismes d'endommagement en présence d'environnements chlorés à haute température ». Alors tout d'abord, ta thèse se positionne dans le cadre d'un projet qui vise à élaborer des réacteurs nucléaires à sel fondu. Peux-tu nous expliquer ce que c'est et en quoi ça constitue un intérêt pour la transition énergétique ?
Oui, merci. Donc les réacteurs nucléaires à sel fondu, ce sont des types de réacteurs qui vont voir le jour d'ici 30 à 40 à une cinquantaine d'années. Et ils ont pour principal intérêt, c'est d'avoir le combustible à l'état liquide. À l'heure actuelle, notre combustible, il est à l'état solide. Et de ce fait, on n'a pas vraiment de maîtrise de la réaction. Il faut le voir un peu comme une cocotte ou une chaudière. Nos centrales à l'heure actuelle, elles ont... Il y a le charbon, en quelque sorte, si on résume l'uranium, c'est du charbon qui génère de la chaleur et qui va créer de l'électricité. Là, l'avantage d'avoir un combustible qui est liquide, on se rapproche plus d'un moteur thermique de voiture. Et l'idée, c'est la même analogie, c'est-à-dire que si on veut démarrer, il faut actionner les pompes et que le liquide se mette en route. Et là, si on veut arrêter la réaction, il suffit d'arrêter que le liquide circule.
Dans quelle problématique ta thèse prend place ?
Ma thèse, elle prend place en fait dans un contexte qui est assez général, c'est-à-dire où la France, elle génère des chaînes nucléaires à l'heure actuelle suite au passage dans les différents réacteurs en différents réacteurs. Et ce qui va permettre, le but de ma thèse, en fait, c'est de valoriser ces déchets. Et nous, on va créer en fait ce fameux combustible qu'on appelle le sel fondu. Donc pour ce faire, on va travailler sur l'élaboration donc du plutonium chloré.
Ton travail a donc pour objectif de connaître les mécanismes d'endommagement. De quoi on parle exactement ? Et est-ce que c'est simplement de la corrosion, par exemple ?
En fait, la corrosion, c'est de l'endommagement qui est lié en fait à l'exposition à notre environnement chloré. Donc là, l'idée de cette thèse, ça va être de voir les effets du sel fondu sur mon matériau de structure dans lequel on va venir faire la réaction de chloration et l'endommagement qui va être généré suite à ça. Et cet endommagement, en fait, il va être de manière différente sur les matériaux. Soit on va avoir un endommagement qui est fort, c'est-à-dire qu'on peut avoir une dissolution parfois totale de notre matériau, et ou dans d'autres cas avoir une dissolution partielle, c'est-à-dire qu'on va avoir nos matériaux sont composés de plusieurs éléments, on va avoir un des éléments qui va être dissous dans le sel.
Tu travailles donc sur plusieurs matériaux qui pourraient convenir pour devenir les matériaux de structure des réacteurs, c'est bien ça ?
Oui, on n'a pas encore vraiment de matériaux miracles, entre guillemets. C'est l'intérêt aussi de la recherche, c'est de trouver des nouvelles pistes, des nouvelles compositions de matériaux pour élaborer ces réacteurs. Et on peut faire un parallèle en fait avec l'eau de mer, parce que la problématique des réacteurs à sel fondu chloré, c'est que l'eau de mer, si on fait le parallèle, c'est que c'est un élément qui est assez corrosif. On a développé des matériaux qui maintenant arrivent quand même plutôt à bien tenir. Ça a pris un certain nombre d'années. L'idée, c'est de faire la même chose, sauf qu'on ne travaille pas à 20 degrés Celsius, qui est à peu près la température moyenne au niveau de la mer, mais on travaille à 650 degrés. Et en plus, on travaille avec des gaz qui peuvent être agressifs au-dessus du bain.
Donc ces températures, on va en parler juste après. D'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu sélectionnes les matériaux pour tes tests, justement ?
Alors, il y a plusieurs manières de faire. Donc, tout d'abord, il y a, on va dire, de manière plutôt assez classique, c'est-à-dire en thèse, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la littérature, donc faire une étude bibliographique sur les différents matériaux qui existent. Il y a les réacteurs à sel fondu, c'est pas quelque chose qui est Alors là, je sors du contexte nucléaire, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Il y a, par exemple, en Espagne ou dans d'autres pays, on a des centrales solaires thermiques, et en fait, ce sont déjà des types de centrales de production d'énergie qui fonctionnent avec des sels fondus. Alors, c'est pas forcément des sels fondus chlorés. Donc là, par exemple, j'ai fait un gros travail bibliographique dessus. Là, ça va me permettre de comprendre tout ce qui est des phénomènes d'interaction, donc avec le sel et le matériau. Et il y a aussi un parallèle qu'on peut faire. Donc tout à l'heure, je vous ai cité donc l'atmosphère qui pouvait être aussi agressive avec les centrales de retraitement des déchets ménagers, où en fait on les fait brûler et ça génère notamment des gaz qui peuvent être très agressifs comme de l'acide chlorhydrique HCl. Et donc on peut, en faisant le lien entre cette partie atmosphère et cette partie sel fondu des centrales, que j'ai pu tirer des potentiels matières, des hypothèses.
Donc là, tu es en deuxième année. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes avancements pendant cette année, cette première année déjà,
Alors, dans un premier temps, comme je vous ai dit, il y a eu l'étude bibliographique, donc qui s'est portée d'une part sur le choix des matériaux et pas que. Il y a aussi le protocole expérimental. Donc là, ça a été tout ce qui va être réaliser les différents petits réacteurs dans lesquels je vais réaliser mes essais. Une fois que j'ai réalisé ces essais en sel fondu, c'est comment on va les analyser, etc. Et ensuite, on a eu toute une partie rapport bibliographique aussi qui fera partie aussi à la fin de mon manuscrit de thèse.
Alors, tu nous parles de ces fameux tests. Donc, concrètement, comment tu testes ces matériaux?
Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pas si simple parce que à 20 degrés, si on fait le parallèle avec l'eau de mer, ça rouille, c'est très agressif, les environnements chlorés. Donc là, l'idée, c'est d'avoir l'atmosphère et, on va dire, l'environnement le plus pur possible. Donc tout d'abord, il va y avoir un travail de préparation en boîte à gants. L'idée de la boîte à gants, c'est un endroit clos dans lequel je vais pouvoir venir mélanger mes sels avec mon matériau et, de ce fait, pouvoir contrôler mon humidité, en avoir le minimum possible, et enlever la présence d'oxygène, enfin d'air, qui est aussi un autre élément agressif. Et donc là, on travaille sous argon. Et après, je fais mon montage en boîte à gants, et je le visse, je le scelle. Une fois qu'il est scellé, je le sors de la boîte à gants, et là, je travaille dans un four à 650 degrés.
Combien de temps ça peut durer ces tests à 650 degrés du coup?
Oui, alors pour l'instant on a fait deux temps, on est sur une semaine et demie, donc qui correspond à peu près à 270 heures, et sur trois semaines, donc 500 heures. Là, ce sont aussi des données que j'ai pu tirer dans la littérature et que j'en ai, avec concertation de ma direction de thèse, on a arrêté ces deux temps-là.
Donc c'est très très long.
Oui. Oui, et encore, on peut faire des essais beaucoup plus longs sur des milliers d'heures aussi, ça peut arriver.
Une fois que l'étape du four elle est terminée, qu'est-ce qui se passe?
Alors, donc, pour protéger mon interface qu'on a d'endommagement, qui a été créée par le sel, comme le sel est très sensible à l'eau, l'idée c'est de extraire mon matériau et mon bloc de sel dans une atmosphère qui est contrôlée. Donc je travaille dans un sac à gants qui est contrôlé avec un flux d'argon, et je viens réaliser donc des découpes, donc c'est-à-dire j'enlève mon bloc de sel, et ensuite mon matériau, je vais le couper en deux, et je vais faire deux types d'analyses dessus. Donc sur une première partie de mes matériaux, je vais faire plutôt des analyses qu'on dit surfaciques, avec la diffraction des rayons X, de la microscopie électronique et ou optique, et l'autre morceau que j'ai réservé, je vais le couper je vais regarder en fait l'endommagement qui a été fait en profondeur sur mon matériau. C'est-à-dire que je vais le prendre, je vais le retourner un peu comme si vous coupiez un saucisson, classiquement. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on peut mieux le schématiser. Et je viens regarder en fait dans le cœur de mon matériau comment le sel a endommagé mon matériau.
Ok, donc différentes façons de le couper pour avoir différentes informations.
C'est ça, c'est ça.
Et ensuite, ces informations, j'imagine que tu les relis en fonction des tests. Comment ça se passe?
Donc il y a le lien toujours qu'il faut faire avec la littérature. C'est pour ça, entre guillemets, la littérature, elle guide un peu notre chemin de pensée. C'est-à-dire que on peut observer des choses qui sont différentes, mais il faut, si c'est différent, il faut l'expliquer pourquoi. Et ce qui l'explique, c'est la littérature. Et ensuite, j'ai oublié, pardon, l'autre partie de ta question.
comment tu fais pour, une fois que tu as tous ces résultats, comment tu gères, en fait, avec toutes ces potentielles réponses, toutes ces hypothèses qui arrivent?
Et donc là, c'est là où il y a la direction de thèse qui est très importante aussi pour ça. Donc en fait, on fait des réunions, on discute et on met à plat en fait à peu près tous les résultats que l'on a, et on vient donc faire des hypothèses. Par exemple, ah là, je vois, j'ai un appauvrissement en chrome. Alors est-ce qu'on a des phénomènes de diffusion qui vont apparaître? Est-ce que c'est lié parce que le chrome il a tendance à se sclorer facilement, ou c'est parce que voilà, il y a des hypothèses qui sont faites, et d'accord, l'ensemble de ces expériences d'analyse permettent de oui ou non valider ces hypothèses.
Ok, du coup des fois tu peux refaire des analyses pour vérifier?
Ah, toujours il faut toujours, pour vérifier que ça soit reproductible et que c'est pas quelque chose qui soit arrivé une fois par hasard parce qu'il y a un événement qu'on ne contrôlait pas.
Au-delà de ce test dans le four, est-ce qu'il y a d'autres tests que tu peux réaliser?
Je peux faire d'autres tests. Il y a eu dans un premier temps toute la phase de caractérisation de mes matériaux, parce que c'est vrai que là je vous ai parlé de tests d'immersion, mais il fallait savoir de quoi étaient constitués mes matériaux. Donc là c'est des essais qui sont annexes. Donc ça passe par des attaques chimiques pour révéler la microstructure de mes matériaux.
Ok. Et donc vas-y, continue.
Non, si je fais un parallèle pour parler de microstructure, en fait, c'est comme si on regardait là actuellement sa main, et c'était de voir en fait tous les différents pores. Les pores, on pourrait les assimiler à des grains, et en fait, on regarde comment ils sont agencés entre eux, etc. Qu'est-ce qui les compose, voilà.
D'accord. Et donc pour ça, tu utilises différentes méthodes de caractérisation, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Oui.
On a parlé de rayons X.
Oui.
On a parlé de microscopie.
Oui.
Est-ce que ces méthodes de caractérisation, elles se complètent, ou ça permet aussi de valider certaines hypothèses?
Alors, elles permettent de valider certaines hypothèses, et surtout elles se complètent. Par exemple, en microscopie électronique à balayage, on peut faire de l'analyse chimique, c'est comme ça qu'on l'appelle, de l'EDS. Si vous voulez l'acronyme en anglais, EDS. Ça permet en fait de voir la composition chimique de manière très locale. Et par exemple, on peut la compléter avec la diffraction des rayons X, dans le sens où localement, mon matériau, je vois que j'ai beaucoup de nickel, beaucoup de chrome. Qu'est-ce que ça peut bien me dire? Eh bien, la diffraction des rayons X me dit c'est normal, parce que là, tu as une phase, ce qu'on appelle austénitique. Je résume simplement, c'est que les matériaux, tous les éléments sont arrangés dans une certaine manière dans l'espace. Et par exemple, ils peuvent avoir une structure qu'on appelle cubique face centrée. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir 8 atomes. Pardon, au sommet d'un cube, avec 6 atomes qui sont situés au centre de chaque face de cube. Et ça, c'est ce qu'on appelle une structure cubique face centrée. Et ça a certaines propriétés mécaniques. Enfin, ça peut avoir d'autres propriétés sur les matériaux.
D'accord. Donc, ces caractérisations, elles te donnent aussi beaucoup d'éléments en plus de ce que tu as déjà... De ce que tu as déjà à penser par rapport à des matériaux.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui.
Par exemple, aussi, la diffraction des rayons X, là où elle est intéressante, à l'Institut Chevreul, on peut faire de la micro-diffraction des rayons X. C'est-à-dire que localement, en fait, je vais me balayer mon matériau, et je vais pouvoir voir, en fait, localement, l'évolution de mes phases, parce que la diffraction des rayons X, ça permet aussi de, comme la microscopie, donner un peu des informations chimiques, l'évolution de mon endommagement qui était lié au chlore.
Très bien. Est-ce que, si on revient sur la problématique initiale, est-ce que tu as déjà trouvé un ou plusieurs matériaux qui pourraient correspondre à la question? Et est-ce que tu as le droit de nous le dire? Peut-être que c'est...
Alors, je peux pas citer les matériaux, malheureusement, je suis désolé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'idée là, de la thèse, c'était de sélectionner un certain nombre de matériaux et de trouver, on va dire, celui qui résiste le mieux. Si je traduis d'une manière opposée, c'est celui qui se corrode le moins en milieu sel fondu. Parce qu'en fait, ne pas avoir de corrosion ou d'endommagement, c'est impossible. Donc là, l'idée, c'est de trouver celui qui tient le mieux.
Ok. Plus largement, qu'est-ce qui te semble aujourd'hui être le principal verrou scientifique ou technologique à lever avant de voir cette technologie déployée à grande échelle?
Là, je le mettrais...
je dirais que c'est le développement des matériaux. C'est le développement des matériaux parce que la problématique tenue à haute température, donc on est sur de l'ordre de 600 degrés, dans un environnement qui est très agressif, même si on a des matériaux qui, à température ambiante, malgré qu'on soit dans un milieu agressif, tiennent, là, il y a l'effet de la température qui vient intervenir et qui va chambouler, entre guillemets, cet équilibre de résistance, si je peux traduire comme cela.
Ok. Bah, merci Loïc pour ces premières réponses. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec le morceau Soliless de Ron et O2N.
J'ai pas envie de courir derrière le temps que je perds. Je préfère prendre mon courage à deux mains et je l'ai étranglé. Étranger la notion d'étranger. Danger à Los Angeles, le même danger, tout le monde veut le soliless. Qui veut du soleil et d'Elias? Qui veut du soleil et d'Elias? On est tombé sur la tête pour de la monnaie, les gosses deviennent dérangés. Où est passée l'allégresse dans les graisses de la danse de se déhancher? C'est pas que je devienne vieux. Pas génie comme Aladdin, garde les yeux ouverts à la bœuf. Je suis content quand il pleut, ça énerve les gens heureux. Tout est question de point de vue, vu que l'argent change les gens. J'en déduis que ceux qui tuent, tuent le nourrit consciemment. Mensonge d'une vie à 400%. Sans, tu crèves la gueule ouverte au soleil comme un goéland. Lent, le poids des jours, le poids du temps, névrosé tralala qui va nous ressaisir. Quand va-t-on arrêter de penser que l'issue n'est qu'une question de plaisir? J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, je vomis du cœur, je suis écœuré. J'ai pas envie de courir derrière le temps que je perds. J'ai préféré prendre mon courage à deux mains et je l'ai étranglé. Étranger la notion d'étranger. Danger à Los Angeles, le même danger, tout le monde veut le soliless. Qui veut du soleil et d'Elias? Qui veut du soleil et d'Elias?
J'ai volé plus haut. Plus haut que tu le pensais de moi. Oui, j'ai volé un peu. Un peu comme tu l'espérais de moi.
Cette deuxième partie de notre épisode de Maté Radio sur Radio Campus. Je suis toujours en compagnie de Loïc, un doctorant de deuxième année. Alors je te propose maintenant qu'on revienne un peu sur ton parcours et les motivations qui t'ont amené à faire de la recherche. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quelles études tu as suivies?
Oui, bah, bien sûr. Alors j'ai tout d'abord commencé donc en 2018, c'était il y a longtemps déjà, par une classe prépa en physique, chimie, sciences de l'ingénieur, qui s'est plus ou moins bien passé. Donc après, je me suis réorienté, je suis parti en IUT de chimie. Et là, j'ai vu que j'aimais bien ce que je faisais et je voulais creuser plus. Donc j'étais à Béthune pour mon IUT. Donc j'ai postulé à l'école de chimie de Lille. Et c'était un peu une révélation. J'ai beaucoup aimé, notamment j'ai fait la majeure matériaux, mais ça, je crois qu'on en reviendra un peu plus tard sur mon choix. Et après, naturellement, comme j'étais de nature plutôt curieux, la thèse s'est entre guillemets imposée naturellement.
Est-ce que pourquoi t'as choisi de t'orienter plutôt vers les matériaux?
Je dirais que c'est un peu une vieille histoire entre eux et moi. Quand j'étais à l'IUT, en fait, Il y a un peu un côté magique parce qu'on a des matériaux, tout est matériaux, tout nous entoure, ce sont des matériaux. Et c'est vrai que j'aimais bien cet aspect-là, en fait, de concevoir, essayer de fabriquer des matériaux qui soient de bonne qualité, qui ne soient pas impactants pour la société. Donc la société, ça comprend aussi tout ce qui est aspect environnemental et économique. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Puis il y a toute cette étude aussi de corrosion. J'ai adoré, moi, à l'école de chimie de Lille, les cours de corrosion. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une thèse dans la corrosion.
Mais du coup, tu n'avais pas forcément envie de faire de la recherche depuis le début?
Alors, je dirais qu'il y a aussi les stages qui m'ont pas mal aiguillé. J'ai fait beaucoup de stages en R&D, que ce soit alors à l'IUT, j'ai commencé pareil, donc stage R&D. Donc, j'étais dans une entreprise qui fabriquait et mettait qui fabriquait des produits de piscine. Donc là, je faisais de la R&D et du contrôle qualité. Donc, ça, c'est une première étape qui m'a beaucoup plu. En école d'ingénieur, j'ai eu la chance de partir à un stage dans un laboratoire de recherche. Donc, j'étais à Delft, aux Pays-Bas, ce qui a conforter l'idée de, à ce moment-là, de faire une thèse, parce que j'étais pas encore sûr en école d'ingé. J'ai beaucoup aimé cet aspect. En fait, c'est pluridisciplinaire, c'est à niveau international, il y a un échange de culture et tout ça. C'est trop chouette. J'avais beaucoup aimé. Et après, j'ai fait une alternance en dernière année d'école d'ingénieur, avec un industriel. C'était toujours dans la recherche et développement. Et c'était en quelque sorte une pré-thèse avant la thèse, j'ai trouvé. Donc, il y avait toute une étude sur les composés uranifères, etc. Donc, c'était vraiment super chouette.
Ta thèse, elle est réalisée dans le cadre d'un projet qui est financé par l'ANR. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement ?
Oui, alors l'ANR, c'est une agence, donc l'acronyme, c'est l'Agence Nationale de la Recherche. Donc là, dans ce cas précis de ma thèse, donc c'est, le nom de l'ANR, c'est l'ANR New Salt. Elle met en lien trois partenaires, un industriel donc, qui est Orano, et deux académiques, donc l'UCCS, l'unité de catalyse de chimie du solide, et l'UMET, l'unité de matériaux et transformation, qui sont deux laboratoires situés à Lille.
Donc il y a d'autres thèses qui sont financées dans le cadre de cet ANR ?
Oui, justement, il y a des thèses. Alors l'UCCS va être beaucoup plus axé sur la chimie du sel et sur les différents procédés pour fabriquer ce combustible. Là où nous, à l'UMET, on a plus une expertise sur la tenue des matériaux en environnement corrosif.
Oui, donc on peut dire qu'il y a différentes étapes dans l'ANR et des thèses qui correspondent à chaque étape. Au-delà de la thèse, tu réalises des actions à côté, comme de la médiation scientifique, comme aujourd'hui, mais tu es aussi impliqué dans l'association des doctorants. Pourquoi t'as décidé de t'impliquer dans ces différents domaines ?
Parce que j'adore partager des moments avec des gens qui sont curieux. Donc l'idée de l'associatif, c'est que ça permet à la fois de regrouper ce côté où on rassemble, là, pour le coup c'est beaucoup des étudiants, parce que c'est l'association de l'Amicale des doctorants de l'UMET, et l'idée c'est de faire des visites de plateaux. Donc par exemple au sein de l'Institut Chevreul, on a visité quelques plateaux, on a visité le plateau de pression, on a visité le laboratoire des Polyrec sur le recyclage des polymères, et ça permet aussi de voir la recherche sous un autre angle et d'ouvrir notre esprit.
Ouais, tu penses que c'est important ça, de prendre du recul, de voir d'autres sujets?
C'est important parce qu'il faut pas, pour moi, il faut pas. Enfin, il y a un dicton qui dit qui peut le plus peut le, enfin qui peut le plus peut le moins. Enfin, en fait, c'est important pour moi d'être hyper curieux pour avoir. Comment dire ? J'essaie de trouver mes mots. Non, mais pour moi, c'est important qu'on soit très ouvert. C'est de la curiosité, quoi.
Ça améliore peut-être aussi ta vision du monde scientifique, etc.
Oui.
Pour finir, quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui seraient intéressés pour faire de la recherche ?
On dit souvent qu'une bonne thèse, c'est tout d'abord un sujet qui est bien choisi. Donc, c'est déjà s'intéresser à quelque chose qui nous plaît. Il y a aussi la direction de thèse. Et après, nous c'est le thésard. Mais on va dire que le trio, c'est vraiment la direction, le thésard et le sujet. Donc, il faut prendre contact avec... il faut aimer déjà, il faut être curieux. Il faut choisir un sujet qui nous plaît. Et ensuite, il faut se renseigner, aller voir le laboratoire qui pourrait potentiellement nous accueillir et discuter avec notre potentielle future direction, c'est très important.
Très bien. Eh bien. Merci Loïc pour toutes tes réponses et merci à vous de nous avoir écoutés pendant toute cette année. Vous retrouverez cette interview et toutes les autres en podcast sur notre site internet, l'Institut Chevreul. On se donne rendez-vous en septembre pour la prochaine Maté Radio. Bel été et bonne soirée à toutes et à tous.